2. Drame. 6 mois s'étaient écoulés. Le poète Agénor avait réalisé, et au-delà, les espérances de Laure de Buridan dont l'existence était maintenant une véritable série d'enchantements, tantôt terrible comme un drame, tantôt bouffonne comme une farce de carnaval. Le metteur en scène de toutes ces péripéties déployait une imagination inépuisable, et semant Laure à pleine main, arrivait au plus fantastique résultat. L'anglais était forcé de reconnaître qu'il ne s'ennuyait plus une minute. Chaque jour, c'était quelque surprise déconcertante. Avec un génie véritablement shakespearien, Agénor faisait traverser à son ami toutes les contrées du globe, toutes les époques de l'histoire, même celles de l'avenir, tous les drames et toutes les comédies. Il arriva à Laure de Buridan de se réveiller solidement ligoté au paratonnerre d'une haute cathédrale ou enfermé dans un tonneau voguant en pleine mer, ou ficelé dans une boîte de cul-de-jatte à la porte d'une église, ou chevauchant un cheval de race en pleine bataille. Jamais l'esprit inventif du poète ne se trouvait à court. Et il se passionnait pour son œuvre, répétant sans cesse que les aventures de Milord Bamboche étaient le plus beau poème qu'il eût jamais composé. L'anglais avait pour lui autant d'amitié que d'admiration. « Des pensées, disait-il, des pensées. Nous avons encore des millions dans les banques. Ce n'est que depuis que vous avez pris la direction de mes divertissements que je suis vraiment heureux. » Laure de Buridan répétait cette phrase pour la millième fois peut-être, accoudé à la balustrade d'un train de luxe qui emportait les deux amis à travers les solitudes grandioses de l'ouest de l'Amérique. Agénor Marmoussier était maintenant complètement transformé. Nul n'eût reconnu le bohème aux cheveux gris que nous avons vu dévorer timidement une portion dans un cabaret infâme, dans le brillant gentleman à la face rose et frais rasé, à la mine robuste et jeune, qui savourait nonchalamment le parfum d'un panatella de premier choix aux côtés du fameux Lord Buridan. En lutte chaque jour avec le drame de la vie, le poète avait rajeuni de 20 ans. « Je crois, fit-il, que je me montre suffisamment prodigue, mais si vous y tenez, on peut faire mieux. « Faites ce qu'il vous plaira, je vous l'ai dit une fois pour toutes, je vous donne carte blanche. Il ne faudrait pas me mettre au défi. » Laure de Buridan rentra dans l'intérieur du wagon-salon. « Je parie, dit-il après un silence, que cette fois notre voyage s'accomplira paisiblement jusqu'à San Francisco. Ce Frisco, cher Yankee. » « Il ne faut jurer de rien, » répliqua le poète avec un sourire ambigu. « Bah, vous avez trop bon goût pour me régaler d'un vulgaire accident de chemin de fer. D'ailleurs, nous avons vu cela 5 ou 6 fois. Qui sait? Moi, je sais parfaitement que malgré tout votre génie, il ne se passera rien aujourd'hui. » Lord Buridan sonna le barman et se fit apporter un sherry gobbler qu'il dégusta lentement à l'aide d'une longue paille. Agénor imita cet exemple, seulement ce fut un julep mint qu'il savoura à longue gorgée. Les deux amis en étaient à leur deuxième cigare lorsque le chef de train pénétra dans le wagon-salon, la mine bouleversée. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Lord Buridan. « Une chose terrible, gentlemen. Le chauffeur et le mécanicien sont ivres morts. Ils ronflent à point fermé. Une épouvantable catastrophe est inévitable. » « Mais, répliqua tranquillement Agénor, il me semble que cela vous regarde. Nous avons payé pour être transportés en toute sécurité et sans retard à San Francisco. Faites le nécessaire. » « Oh, cela est aisé à dire !»« Manœuvrez les freins !» proposa Lord de Buridan. « À quoi cela mènera-t-il » répliqua le chef de train. « À rester en panne en pleine prairie ? Les cow-boys et les bandits de la main rouge auraient eu vite fait de nous assassiner tous, à 10 000 de toute habitation. Puis, il y a un autre rapide dans une demi-heure. »« Diable, c'est grave !» grommela Lord de Buridan vaguement effrayé. « Vous n'aviez pas prévu cela, mon cher Agénor, et voilà un danger qui n'était pas dans le programme. » Le poète réfléchissait. Il y a un moyen, dit-il enfin. Lequel ? Je sais conduire une locomotive. Dans ma prime jeunesse, je fus 3 ans aide-mécanicien à la gare du Nord. Milord, si vous consentez à me servir de chauffeur, je réponds de tout. Le chef de train soupira, profondément ému. Un gentleman, fit-il, il y a dans ce convoi 92 voyageurs. Leur existence est entre vos mains. Soyez tranquille. « C'est qu'il n'y a pas une minute à perdre. Je n'ai encore rien dit aux autres voyageurs pour n'effrayer personne. Suivez-moi. »« Très amusant, » déclara Lord Buridan. « Vous voyez, mon cher poète, que malgré toute votre imagination, le hasard est encore notre maître à tous. » Agénor sourit sans répondre, et tous deux, circulant de voiture en voiture, grâce aux passerelles mobiles, atteignirent le fourgon aux bagages situé à l'autre extrémité du convoi. De là, il leur fut facile de se hisser dans le tender qui fait immédiatement suite à la locomotive. « Bonne chance !» leur cria le chef de train. « Si cela devenait urgent, agitez le signal et je ferai manœuvrer les freins. » Lord Buridan et Agénor repoussèrent dans un coin les corps inertes du chauffeur et du mécanicien, ivres morts tous les deux. Et, remontant jusqu'aux oreilles le col de leur pelisse de fourrure qu'ils n'avaient eu garde d'oublier, ils se mirent courageusement à l'œuvre. Manœuvrant la roue d'abduction de la vapeur, Agénor réussit à modérer un peu l'effroyable vitesse, pendant que Lord Buridan précipitait dans le foyer ardent des monceaux de houille grasse. Tous deux étaient en sueur malgré la bise glaciale qui leur fouettait le visage. La nuit venait à grands pas. Le train fuyait comme un fantôme à travers l'immense plaine déserte où retentissaient au loin les beuglements mélancoliques des troupeaux sauvages. Le train marchait à raison de 120 km à l'heure. Une heure se passa ainsi. Pas un bruit ne venait de l'intérieur du train. Les voyageurs, maintenant, devaient dormir à point fermé dans les couchettes des sleeping cars. Malgré lui, Lord Buridan se sentait ému. Il faisait maintenant nuit noire. On traversa en coup de vent une petite station, dont les lumières apparurent l'espace d'un éclair pour s'effacer aussitôt dans les ténèbres mouvantes. Les puissants phares électriques placés en tête de la locomotive montraient un pays cultivé. On traversa des villages endormis. Des feux de garde-barrière parurent et moururent. La ligne était depuis un quart d'heure séparée des champs par une sorte de clôture. « Courage, Milord, » dit le poète. « Nous approchons. Dans une demi-heure, nous atteindrons la station de Jogel City. » Lord Buridan, à la fois grillé par le foyer incandescent et gelé par la bise, répondit en grommelant. « Jogel City, cette ville fondée par un milliardaire dont le fils a tué un savant français ? C'est bien cela. On dit que c'est une ville maudite. Il y a eu, au début, une série d'assassinats que personne n'a pu expliquer. » Lord Buridan se sentit frissonner et retomba dans le silence. Le cadran de l'appareil enregistreur indiquait 110 km. Tout à coup, Agénor eut une sourde exclamation. Du doigt, il montrait à quelques centaines de mètres un lourd chariot attelé de 8 chevaux et qui venait à peine de s'engager sur la voie qui l'obstruait complètement. « Machine en arrière !» balbutia l'anglais dont les dents claquaient. « Trop tard. Qu'allez-vous faire ? Tant pis, je risque tout. » Nerveusement, Agénor avait tourné la roue. La vapeur s'engouffra dans les tiroirs. Les plaques grincèrent. Le convoi atteignait l'effroyable vitesse de 160 km à l'heure. Il filait comme un météore sur les rails. Lord Buridan ferma les yeux au moment où le chariot, chargé de lourds blocs de granit, apparut en pleine lumière. Il s'attendait à la mort. Il eut un choc, mais à peine sensible. Des hennissements d'agonie se perdirent dans la nuit. La masse énorme du chariot et l'attelage avaient été culbutés, rejetés sur le côté de la voie. Le train passait, brûlant les stations dans un fracas de tonnerre. « Oh, c'est égal !» murmura le poète. « Nous l'avons échappé belle !» Lord Buridan, lui, s'épongeait le front, incapable de prononcer une parole. Mais déjà, le fond de l'horizon s'embrasait. « Jorgel City !» fit Agénor. « Il est grand temps de ralentir !» Il manœuvra vigoureusement la roue. La vitesse vertigineuse se modéra jusqu'à l'allure paisible, 60 km/h, d'un train omnibus. Quelques minutes après, le convoi stoppait sous le hall vitré de la grande gare, autrefois construite par l'ingénieur Harry Dorgan. Le chauffeur et le mécanicien furent portés sur un lit de camp. La locomotive, dont tout l'avant était effondré, fut dirigée vers les ateliers et remplacée par une autre. Chaudement félicités, Agénor et Lord Buridan purent regagner leur sleeping, ce qu'ils firent, mais non sans être réconfortés d'un grog brûlant. Le lendemain, vers midi, ils arrivaient à San Francisco. Lord Buridan prit plaisir à visiter cette ville étonnante, détruite tant de fois par les tremblements de terre, reconstruite en acier et où se pressent toutes les races de l'univers. Le lendemain de leur arrivée, ils se promenaient sur le quai après un excellent déjeuner à l'hôtel de France et d'Albion et ils admiraient le port rempli de navires. « Quel temps magnifique !» dit tout à coup Agénor. « Le Pacifique est calme comme un lac. Pas un souffle de vent, pas une vague. »«
Mais si nous faisions une promenade en mer ?» proposa Lord Buridan. Vu de la rade, le panorama est splendide.
Comme il vous plaira, voici justement une embarcation qui fera tout à fait notre affaire. Et le poète montrait une baleinière aux formes élancées, dans laquelle deux matelots assis à califourchon jouaient nonchalamment aux cartes, en fumant leurs pipes. Le marché fut vite conclu. Agénor et Lord Buridan prirent place à l'arrière. Les marins empoignèrent leurs avirons et la légère embarcation s'éloigna du rivage. La promenade s'annonçait sous les plus heureux auspices. Après avoir traversé le port encombré de navires, on remonta dans la direction du nord, en longeant une côte déserte. Le ciel continuait à être d'une limpidité parfaite, et la mer aussi unie, aussi étale que la surface d'un étang. La ville de San Francisco était déjà loin lorsque Lord Buridan s'avisa que la promenade avait peut-être assez duré. « Si nous voulons être de retour avant la nuit, fit-il, il serait temps de virer de bord. » Et il ajouta, « Je puis dire, par exemple, que c'est une des plus belles promenades que j'ai faites, mais je vois que si j'en faisais une pareille tous les jours, je commencerais à m'ennuyer. Et tenez, je m'ennuie déjà. » Et Lord Buridan étouffa un long bâillement. « C'est vraiment fort regrettable, » répondit Agénor avec un singulier sourire. Et il donna l'ordre aux deux marins de virer de bord pour regagner San Francisco. Mais à ce moment même, une pirogue sortit d'une petite baie marécageuse et se dirigeait vers la haute mer. L'aspect de cette embarcation excita tout d'abord la surprise de Lord Buridan. La coque effilée était d'un seul morceau, creusée à même le tronc d'un gigantesque cèdre. Elle était ornée d'un coloriage barbare, rouge, orangé, noir et bleu, et montée par 8 peaux rouges portant le costume classique de leur race et armée de longues pagaies à la pointe effilée. La face de ces sauvages était hideuse, grâce aux tatouages et aux peintures de guerre dont ils étaient couverts. Ils portaient de hauts diadèmes de plumes d'aigle, et leurs manteaux de peau de possum flottaient au vent. Ils avaient à la ceinture le couteau et le tomahawk, mais l'arc et les flèches étaient remplacés par des carabines Winchester et une triple ceinture de cartouches. Lord Buridan les admira naïvement. « Ils sont magnifiques, dit-il, mais je croyais que leur race était à peu près détruite ou cantonnée dans le territoire indien. » « Détrompez-vous, répondit Agénor. Il existe encore dans les montagnes rocheuses et sur toute la côte qui s'étend au nord de San Francisco quelques tribus indomptables, farouches, et qui ont voué aux hommes blancs une haine implacable. Je crains bien que ceux-ci n'appartiennent à quelques tribus insoumises. »« Diable !» murmura Lord Buridan avec inquiétude. Enlevée par les 8 robustes pagayeurs, la pirogue s'approchait d'instant en instant avec une rapidité qui tenait du prodige. Elle semblait glisser comme un oiseau à la surface des flots tranquilles. Vainement, les deux matelots américains faisaient force de rame. En moins de 3 minutes, la pirogue était venue se ranger le long de la baleinière. Brusquement, 2 des peaux rouges lâchèrent leurs pagayes et épaulèrent leurs carabines. Lord Buridan comprit que toute résistance était impossible. « Nous en serons quittes pour payer une rançon, » dit-il avec beaucoup de sang-froid. « Si toutefois ils y consentent, » murmura le poète d'un ton mal assuré. Mais déjà, 2 des peaux rouges avaient sauté dans la baleinière, et, sans vouloir entendre aucune explication, avec une dextérité de prestidigitateur, ils avaient garrotté de fines cordelettes d'écorce les 2 touristes et les matelots. Alors, méthodiquement, ils dépouillèrent Agénor et Lord Buridan de leurs porte-monnaie, de leurs montres, de leurs portefeuilles et même de leurs cigares et de leurs mouchoirs de poche. Tout en perpétrant cet acte de déprédation, ils faisaient de hideuses grimaces et se livraient à une pantomime simiesque. Tout à coup, ils saisirent leur Buridan, le dévêtirent complètement et, après lui avoir passé sous les aisselles une corde solide, ils le précipitèrent dans la mer. La corde était amarrée au banc d'arrière de la pirogue. Sur un signe de leur chef, les pagayeurs recommencèrent à manœuvrer en cadence. La pirogue reprit sa course furieuse, entraînant derrière elle le malheureux lord qui se comparait in petto à la reine Brunehaut attachée à la queue d'un cheval sauvage. La situation, en effet, était tout aussi pénible et presque aussi périlleuse. Les liens d'écorce lui entraient dans les chairs, et c'est à grand-peine qu'essoufflé, haletant, il arrivait à tenir sa bouche hors de l'eau. Dans son effarement, il se rendit compte qu'au bout de quelques minutes de ce sport diabolique, il n'aurait plus le courage de faire les efforts nécessaires pour respirer. Qu'il serait noyé à petits coups, qu'il périrait de la mort la plus odieuse et la plus lente. Agénor, inerte et garrotté au fond de la pirogue, ne pouvait lui être d'aucun secours. Un moment, Lord Buridan eut la sensation que ces sauvages, aux faces de démons, l'entraînaient tout vivant dans quelque enfer maritime insoupçonné de Dante. 5 minutes s'écoulèrent ainsi. 5 siècles. La course folle de la pirogue s'était vaguement ralentie. Lord Buridan respira. Il se reprit à espérer que le supplice qu'il endurait n'était qu'une brutale plaisanterie qui, peut-être, prendrait bientôt fin. Mais, tout à coup, sa moelle se figea dans ses os et ses cheveux se hérissèrent sur sa tête. À travers les eaux limpides et bleues, il venait d'apercevoir une grande ombre, une silhouette aiguë et noire qui se rapprochait de lui insensiblement. « Un requin !» s'écria-t-il. « Agénor, au secours, au secours !» Le poète ne répondit à cet appel désespéré que par un gémissement sourd. Le squale se rapprochait de seconde en seconde, battant l'eau de sa formidable queue. Lord Buridan entrevit sa gueule armée d'une triple rangée de dents, son petit œil féroce et malin. Les peaux rouges avaient cessé de ramer, et ils contemplaient ce spectacle avec autant de satisfaction paisible que s'ils eussent assisté à une séance de boxe ou à un combat de bulldog contre des rats. Lord Buridan n'avait plus une goutte de sang dans les veines. Avec cette netteté suraiguë de sensation qu'éprouvent tous ceux qui se trouvent exposés à un péril imminent, il suivait les mouvements du requin. Il le vit se retourner pour le happer et perdit connaissance. Mais à ce moment, un des Indiens se débarrassant prestement de sa carabine, de son tomahawk et de son manteau d'opossum, se précipita à la mer en brandissant un long coutelas. Au moment précis où le squale, en se retournant, mettait en évidence son ventre d'un blanc sale, l'Indien l'atteignait en plein cœur. L'eau se teignit de sang, et rapidement, sur un ordre bref du courageux peau rouge, les Indiens halèrent à bord le corps inerte de Lord Buridan. Un peu plus loin, le squale se débattait dans les derniers sursauts de l'agonie.